Europe 1. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Magdeleine sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Magdeleine.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Magdeleine?
Oula, alors mon âge, j'ai à peu près, je suis une quadra bien passée, on va dire, bon, et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, de quoi allons-nous parler, ma chère? Dites-moi.
Je crois qu'on va parler de cancer, de résilience et de joie de vivre.
Oui.
Si ça vous va.
Ça me va très bien. C'est un. Alors bon, j'allais vous dire, c'est un parfait. Menu, mais on aurait bien enlevé le cancer, bien évidemment, mais cette joie de vivre, vous allez nous en parler, c'est la vôtre. Le fait de pouvoir lister tout un tas de choses dont on a envie, et l'envie renaissante aussi, c'est quelque chose dont vous allez nous parler. Mais alors, prenons, remontons le temps, Magdeleine. Vous avez quel âge au moment où vous apprenez que vous avez un cancer? Tout ça a commencé comment?
Ça a commencé en 2021, j'ai 45 ans. Donc du coup, vous allez pouvoir faire le calcul pour avoir mon âge d'aujourd'hui. en fait, j'ai été diagnostiquée, on va dire, à peu près par hasard, puisque au départ, je n'allais pas... je suis un peu confuse.
Allez, on compte 1, 2, 3, on prend son souffle.
1, 2, 3.
Voilà, et on recommence.
En fait, on m'a diagnostiqué un cancer par hasard, puisque j'avais une anémie. J'ai été hospitalisée pour une anémie et j'ai profité de ce moment pour montrer une boule que j'avais au sein.
Oui.
Et une boule qui s'est avérée être un cancer.
D'accord. Au moment où votre cancer est pris, il est à quel stade en fait? Il est développé? Il est comment?
Il est au stade le plus haut,
le grade le plus haut. C'est-à-dire un stade 4.
Le plus élevé, voilà. Donc voilà, il est à un stade avancé, on va dire, puisqu'il prend l'ensemble du sein.
D'accord.
Et il est agressif.
D'accord.
Il veut à peu près rien dire pour quelqu'un. En fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on vous annonce un cancer, vous réfléchissez pas au grade, au stade et s'il est agressif ou non. On vous annonce un cancer c'est déjà.
Je vais vous poser plein de questions. D'abord parce que je suis curieux et puis parce que je suis particulièrement frappé depuis quelques jours par une histoire telle que celle-ci. Pas moi personnellement, hein, je rassure celles et ceux qui écoutent, mais quelqu'un de qui m'est très cher et très proche a appris il y a quelques jours un cancer grave, assez grave, en tout cas annoncé comme étant le plus haut. Et donc je vais vous poser tout un tas de questions parce que j'ai aussi besoin d'en connaître un peu plus et que votre expérience va peut-être m'amener des réponses et nous amener à nous toutes et à nous tous qui écoutons cette libre antenne quelques réponses. Quand vous êtes touché par ce cancer, vous êtes jeune, en tout cas considéré comme étant extrêmement jeune. Et on sait que le cancer, quand on l'a jeune, ça n'est pas un bon paramètre, hein, puisque il se développe généralement plus rapidement chez les personnes plus jeunes. Qu'en est-il pour vous à l'époque?
En fait, moi, ce que je comprends, c'est que c'est quand même le diagnostic, il est grave. Alors, bien entendu, les médecins vont pas vous dire. Même si j'ai posé la question, à savoir quand est-ce que je vais mourir et est-ce que je vais mourir bientôt, personne n'a répondu à cette question, évidemment.
Oui, et ça, c'est plutôt bien, parce que...
C'est plutôt bien, ouais. Et puis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, même si on m'avait dit « vous allez mourir bientôt », de toute façon, on va tous mourir. C'est oui. Le constat que j'ai fait aussi.
Et puis je crois aussi que aujourd'hui, les traitements... et les progrès qui ont été faits en termes de traitement sont tellement énormes que aucun médecin ne s'avancera, surtout quand c'est pris comme ça au début, à vous dire que vous allez mourir. Il y a toujours, je crois, une part de une zone un peu grise comme ça, où on ne peut pas trop se prononcer, je suppose.
Bah, je pense que déjà, en tant que médecin, il vaut mieux ne pas se prononcer. Et puis, il y a tellement d'autres paramètres qui font que... moi, par exemple, je sais que je me suis dit, il faut que je sois dans un mood positif. Il faut que je continue à vivre normalement, à faire comme si de rien n'était. Puisque moi, avant, en vérité, je me suis dit, bah, moi, avant de me diagnostiquer le cancer, j'étais pas malade.
Vous n'étiez pas malade, en fait.
Il y avait cette boule, mais cette boule, elle me gênait pas, j'étais en bonne santé. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je sois malade d'une minute à l'autre, en fait, entre le moment de la biopsie, par exemple. Entre ce moment-là, l'avant et après, je suis toujours en bonne santé. Juste, on m'a diagnostiqué un cancer et je me suis dit, il faut rester dans ce mood-là. Il faut pas bader, en gros.
Oui.
Justement, pour être toujours dans un bon ressenti, dans
un bon feeling, comme si finalement, il fallait absolument. J'essaie de traduire un peu ce que vous voulez me dire, mais rester dans ce bien-être qui était le vôtre à l'époque, en fait.
C'est ça. Et en plus, je me disais, ma part du travail, ça va être enfin, je suis entourée de bons médecins, on est en France, donc on est bien accompagné, vous le disiez tout à l'heure, on est bien soigné.
Oui.
Et donc, du coup, moi, si tout le monde se met à tout faire pour que je m'en sorte, et si moi, de mon côté, je bade, je suis triste, etc., ça va pas faire avancer les choses. Donc, je me suis dit, bon, pour l'instant, on va aller au bout du col, on va aller au bout du traitement.
Processus, oui.
Voilà, et on aura le temps d'ici là d'avoir une attitude négative. Enfin, je me disais vraiment, il faut mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Et d'ailleurs, on dit souvent, le mood, l'état d'esprit. Aide aussi à la maladie. Elle soigne pas, on va pas se mentir. C'est pas parce que je me réveillais avec le sourire et la joie de vivre que j'ai guéri. C'est parce que j'ai eu une chimio, que j'ai eu des rayons, qu'on m'a fait une mastectomie, que je suis guérie.
Oui. Mais ça a dû participer quand même.
Voilà, c'est le petit plus qui fait que c'est l'assaisonnement dans un plat qui fait qu'on préfère ce plat à un autre, alors que de base, il y a les mêmes ingrédients.
Et vous avez eu la chance qu'il n'y ait pas de métastase ailleurs.
Ah, mais tellement.
Ah oui, il n'y en avait pas
tellement
ailleurs.
De chance. Oui. Il n'y en avait pas ailleurs. Et j'ai eu aussi de la chance d'avoir que un cancer hormonodépendant, parce qu'en fait, il y a le triple négatif, par exemple.
Oui, bah c'est
le cancer du sein triple négatif, il est extrêmement violent. Donc, dans mon malheur, on va dire, j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir de métastases. C'était mon grand stress d'avoir des métastases, parce que en général, quand il y a des métastases, c'est pas non plus... rajoute un petit moins au diagnostic, quoi, en fait.
Oui, c'est certain que quand il y a des métastases, il faut s'armer, et ça veut dire que la chimio va être beaucoup plus dure, hein, parce que ça veut dire que le cancer a eu le temps de se développer et donc d'empoisonner, d'irradier, je ne sais pas comment on dit, mais d'autres parties du corps.
De se propager, quoi.
Oui. Cette saloperie de cancer. Alors, à partir du moment où on vous annonce tout ça, vous voulez donc, comme vous me l'avez dit, préserver ce bon mood, comme vous dites, hein, ce bon état d'esprit, puisque vous vous sentez bien et pas malade. Vont arriver, je suppose, les premiers traitements. Comment est-ce que vous réagissez aux premiers traitements ?
Alors, ça arrive hyper rapidement, les premiers traitements, parce qu'en fait, on prend le temps de nous poser le porte-à-quatre, c'est ce qui va permettre d'injecter la chimio. Et en fait... je me souviens que le premier jour de la chimio, ma première chimio, en fait, c'est quand je me suis retrouvée à l'hôpital que je me suis rendu compte que j'étais... Enfin, où là, j'ai dit, ah ouais, ok, en fait, j'ai un cancer.
Oui.
Et donc, du coup, c'est l'injection, c'est quand le produit est rentré dans mon corps, où là, j'ai pris conscience que vraiment, vraiment j'étais malade, ou en tout cas j'avais une maladie et que je la soignais. Et donc les premiers traitements, en plus moi j'ai eu une chimio inversée parce que comme j'avais de l'anémie, on m'a fait la chimio hebdomadaire. Dès les premiers, ma première chimio, elle a été toutes les semaines au lieu de toutes les trois semaines selon certains protocoles. Et donc c'était assez, malgré tout, assez violent parce qu'on perd très vite nos cheveux. Enfin, moi, j'ai perdu très vite mes cheveux. J'avais les cheveux très longs.
Oui.
Et donc, au bout d'un moment, j'avais marre d'avoir des cheveux dans mon lit, dans mon assiette, j'avais des cheveux partout. Et donc, j'ai fini par les couper.
Oui.
Parce que c'était plus tenable. Et puis, je les perdais vraiment par poignée. Donc, aucun intérêt.
Je sais que c'est un détail. Qui marque quelques personnes qui sont touchées par le cancer. Le fait de perdre ses cheveux, c'est difficile.
Ben, en fait, ce n'est pas un détail, parce que je me suis rendu compte, après le parcours, que c'est la première question que j'ai posée à mon oncologue.
Oui, d'accord.
C'est: est-ce que je vais perdre mes cheveux? Et finalement, aujourd'hui, je me trouve tellement ridicule d'avoir posé cette question, parce qu'entre mourir d'un cancer et mourir chauve, enfin, l'idée... Enfin, je trouvais que la question, après, avec le recul, je trouve que la question était un peu lunaire de demander à son oncologue: est-ce que je vais perdre mes cheveux, alors qu'il est en train de dire que on a une maladie potentiellement potentiellement mortelle. Oui. Enfin bon, voilà. Bon, mais du coup, c'est pas du tout anecdotique de perdre ses cheveux, parce que c'est la marque visible de la maladie. Ça veut dire qu'au travail, on va commencer à mettre des foulards, on va commencer à mettre des perruques, et ça va commencer à se voir.
Oui.
Qu'on est malade, donc c'est pas forcément anecdotique, parce que justement c'est la marque de la maladie. On se dit: ah tiens, et puis on se dit pas: la personne elle est en chimio, quand on connaît pas la maladie on dit: ah, elle a un cancer, alors qu'en fait c'est pas la maladie qui fait qu'on perd nos cheveux,
c'est la chimio,
c'est le traitement donc, mais voilà, ça nous stigmatise un peu plus.
Vous dites que vous avez été submergé par une urgence à vivre, et que vous avez eu envie de rédiger la liste de vos envies.
Oui, parce que même si personne ne m'avait donné la date de ma mort, mon oncologue ne me l'a jamais donné, imaginez que non plus, j'avais quand même, je me disais quand même, dans le doute, cancer agressif, dernier stade. Puis on voit qu'on dépérit quelque part, hein. c'est une guerre entre la maladie et nous, donc je me suis dit: waouh, il y a quand même plein de choses que tu n'as pas faites. En gros, tu te l'as coulé douce, un peu comme les élèves au fond de la classe qui se rendent compte la veille que c'est le bac le lendemain. Donc en gros, moi je m'étais un peu laissé aller dans la vie, mais enfin voilà,
vous ne prenez pas conscience de la valeur de la vie, en fait.
C'est ça.
Mais bon, peut-on en vouloir ou peut-on s'en vouloir à 40 ans, qui est somme toute un âge très jeune, de ne pas comme ça introduire dans nos pensées quotidiennes l'idée de la mort? Moi, je trouve ça assez sain, en fait. Voilà, ça n'est pas quelque chose dont il faut se charger, quoi. En fait, si tout va bien, bon, c'est comme ce que vous me disiez tout à l'heure, continuer à garder le mood, le bon mood, et bien ne pas penser à la mort obligatoirement quand on a 40 ans, c'est une manière peut-être de la repousser, ou en tout cas ça peut être considéré comme une sorte de superstition qui fait que on se dit: oh bah, tant qu'on n'y pense pas, elle va pas approcher, vous voyez.
Ouais, c'est exactement ça. Et puis en plus, en tout cas moi dans ma tête, mais dans la tête de plein de gens, on meurt de vieillesse. Donc moi, la vieillesse, c'était vraiment dans très longtemps, quoi.
Longtemps, 80, 90, 100 piges. Moi, je signe, hein, tout de suite.
Mais voilà, et c'est surtout que en fait, les personnes âgées, moi, à mon âge, dans les années 90, les gens qui avaient 50 ans, ils avaient 50 ans, mais de nos jours, enfin, c'est mon ressenti, hein. J'ai toujours l'impression d'être jeune, donc ma vieillesse, elle était retardée tout le temps. Bref, oui. J'étais jeune et j'avais pas de raison de m'inquiéter de la mort. Donc oui, après j'ai fait ma petite liste, disant bon voilà, si je devais mourir dans les 5 années à venir, puisque c'est un peu pronostic de récidive, etc. Et ben j'ai fait ma petite liste de choses que j'avais pas faites et que je trouvais dommage de mourir sans l'avoir fait. Mais c'est des choses très simples en plus, c'est pas. Et en même temps, j'avais pas forcément envie de faire une liste un peu trop engageante. Justement, vous parliez de superstition, en me disant ouais, mais si je la charge trop cette liste, ça va peut-être me porter l'œil. Donc j'ai fait une liste un peu, enfin une longue liste, mais quand même qui était pas trop.
Qui était réalisable, vous voulez dire?
Ah oui, tout était réalisable, à part peut-être certaines choses comme manger manger un truc chelou, genre des insectes. Si, c'est dommage de mourir et de pas avoir essayé de goûter ces trucs-là. Ah mais oui, en même temps, aujourd'hui, ça m'arrange d'être là, parce que je ne mangerai pas d'insectes. Mais voilà, c'était des petites choses. Et puis après, il y a des choses plus j'ai pas osé mettre des choses trop profondes non plus. Parce que justement,
qu'appelez-vous des choses trop profondes?
Je me suis pas. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, j'ai pas d'exemple, mais des choses qui intellectuellement sont engageantes. Mm-hmm. Parce que justement, si j'ai pas le temps de les faire, ça m'aurait un peu frustré de pas pouvoir les faire, en fait.
D'accord.
J'essaie de me raccrocher à des choses un peu. Voilà, de me dire, on fait ta liste. Et puis cette liste, elle me permet aujourd'hui de me rappeler. Finalement, c'est peut-être ça le but de l'avoir fait à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, je la reprends assez régulièrement pour faire les choses que j'avais notées. Et justement, ça me rappelle que peut-être aussi parfois, la vie peut être courte. Et qu'à l'époque, j'avais fait cette liste justement en me disant, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, peut-être. Et dans le doute, je fais cette liste et je vais la cocher.
D'accord,
de temps
d'accord.
en temps. Et là, et c'est vrai que ces derniers temps, parce qu'en plus, je suis toujours en soins, puisque j'ai eu une reconstruction il y a 10 jours, en fait.
Oui.
Ce qui explique que je suis un peu.
Ah oui, il y a 10 jours, voilà. D'accord. C'est tout neuf, là. D'accord.
C'est tout neuf. Tout est tout neuf.
D'accord.
Et je me suis rappelée de cette liste. Je l'avais un peu mise de côté, mais c'est de se dire, voilà. C'est super si on vit super longtemps, mais cette liste, elle me rappelle que à un moment donné dans ma vie, j'ai quand même eu une échéance et un timing qui m'a fait me poser des questions sur les choses simples qu'on devait faire dans la vie, quoi.
D'accord.
Je sais pas si je suis claire,
si,
en fait.
Si, très clair, très clair. Et dans cette liste, il y avait quoi, par exemple, concrètement? Dites-moi.
Alors concrètement, dans cette liste, il y avait me faire. Je le dis en premier parce qu'en fait, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'était me faire tirer le portrait à Montmartre. Parce que ça, c'est une chose. Je suis une Parisienne, je suis née à Paris et j'ai toujours voulu aller me faire tirer le portrait.
Ah oui.
Et en fait, voilà, je suis Parisienne, donc je vais très régulièrement à Montmartre et je me fais jamais tirer le portrait. C'est con, en fait. C'est une envie.
D'accord.
C'est une envie qui est simple, en fait. Il suffit de prendre le métro ou le bus, de se poser sur la chaise, de prendre 20 minutes, le gars, il fait le portrait et on repart avec. Mais j'ai toujours eu envie de le faire et je ne l'avais pas fait. Et je me suis dit, ça, c'est un truc simple à faire. Et donc, je l'ai fait.
Ouais.
Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, parce que j'avais un peu mis de côté. Voilà, donc, il y avait cette chose. Il y a aussi aller à New York. Voilà, j'ai jamais été à New York et je trouvais que
vous
c'était sympa.
Vous ne connaissez pas New York encore, donc?
Non,
moi non
pas.
Plus. Moi non plus. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé et je ne connais pas New York, donc voyez.
Et vous êtes, vous direz si
vous,
c'est bien.
Ouais, vous me direz, ouais, carrément.
Ouais, ouais. Après, j'ai mis, me faire un nouveau tatouage, mais ça c'est prévu. J'avais mis aussi regarder Titanic parce que je sais pas si je suis une des une des rares personnes, peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'ai toujours pas vu Titanic.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Donc
okay.
C'est très con, hein, je m'étais dit tiens, c'est faut quand même que je vois si ce film vaut vraiment la peine d'être vu. Je dois aller aussi dîner à la Tour Eiffel, écrire ou finir d'écrire un livre, j'avais commencé, donc je vais finir. Mmh. Monter sur scène et faire rire la galerie.
D'accord, ça vous avez entamé le travail pour ?
Oui, oui. Et bien maintenant, il faut que je me prenne en main et que j'ose. Uh-huh. Et j'avais mis aussi, alors ça c'est juste très personnel, mais j'avais mis voir JR sans lunettes. Voir JR, vous connaissez l'artiste JR qui a des lunettes noires.
Non, je ne le connais pas. Je vois pas
bref, c'est un artiste. Je pense que vous savez s'il a fait des grands portraits en noir et blanc, les photomatons géants.
Non, ça ne me dit rien.
Non, c'est pas grave. Non. En tout cas, il a des lunettes noires tout le temps. Et depuis le début de toute ma vie, depuis 40 ans, il a des lunettes. Ça m'intrigue. Je me dis, tiens, j'aimerais bien voir ce gars sans lunettes.
D'accord.
Moi, c'est des petites choses. Vous voyez, ce que je disais, c'est pas des choses essentielles à la vie, mais... Mais voilà, c'était des choses un peu, et à la fois un peu rigolotes et un peu simples, de se dire, j'avais mis dormir dans un hôtel, habiter dans une péniche, faire une soirée entre amis au coin du feu. Enfin, c'est des choses vraiment très... Faire une partie de pêche.
D'accord.
Ça fait longtemps que j'ai pas pêché. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, en fait, de se dire, en fait, la vie, c'est ces petites choses... Ces petits moments doux, ces petits moments sympas qu'il faut multiplier pour être bien. En fait, c'est pas gagner des millions d'euros, d'être tout le temps au travail de 9h à 20h pour rien, en fait. Et c'était ça, en fait. J'avais envie de lister vraiment les choses simples, accessibles et qui font du bien.
Oui, d'accord.
Et ceux avec qui on les partage, en fait.
Très bien.
C'était.
Non, mais
voilà,
bien,
ma liste, elle est vraiment sauf en prétention.
Bon. Et vous avez commencé à. Par rapport à cette liste, alors vous êtes fait tirer le portrait, très bien. Mais il y a d'autres choses que vous avez entrepris ?
Eh bien, oui, l'écriture d'un one-man show que j'ai commencé et que j'ai presque terminé, mais qu'il faut que je mette en scène. Enfin, voilà, ça prend du temps aussi, tout ça.
Oui.
Je travaille aujourd'hui sur un projet d'agenda. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est aussi en projet. Et j'ai aussi créé une association pour accompagner les personnes malades et les aidants. Que les aidants, on les oublie souvent, les pauvres. Alors que ils vivent la maladie comme nous. Avec la même intensité, on va dire. Et donc, voilà, l'idée, c'est de les accompagner pendant la maladie et après la maladie, sur le champ professionnel. Parce que c'est mon corps de métier au départ.
D'accord.
J'accompagne les gens dans la réinsertion.
Là, vous êtes tout de même sur un chemin de guérison, si je comprends bien. Vous êtes... c'est bien embarqué, tout ça.
Bah, la rémission, on n'en parle qu'à partir de 5 ans, mais moi j'ai envie de dire que oui, je vais pas attendre 5 ans pour dire que je vais bien, en fait, voilà, de toute façon, mes examens, pour l'instant, ça se passe bien, j'ai fait un TEP scan il n'y a pas longtemps,
oui.
Donc pas de métastase. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est une parenthèse, et j'espère qu'elle va pas se rouvrir. Moi, je prends le parti de la fermer, cette parenthèse,
oui.
parce que ça fait partie aussi de mon état d'esprit. Voilà, on m'a dit que voilà, on m'a enlevé un sein, on me reconstruit là, donc je suis dans un mood de reconstruction, de nouveau départ, et donc oui. Je vais dire que je suis guérie, même si officiellement il faut attendre encore quelques années pour être en rémission, mais bon.
Et oui. quelle est la part que vous attribuez justement au moral, en fait ?
Ben, en fait, moi je veux pas la part. Je vais pas. Je sais pas s'il y a une. On peut dire qu'il y a une. Si c'est 50-50. Parce que si c'était que notre mood. En plus, il y a quelque chose d'important, c'est que moi, j'ai pu avoir cette posture d'être dans un bon état d'esprit, d'être toujours positive, mais de dire que, admettons, c'est 50% si c'est 50%, ceux qui n'y arrivent pas, c'est aussi les mettre en difficulté. Enfin, je pense que c'est chacun à son niveau, donne ce qu'il peut. Mais je veux pas parce que c'est difficile de traverser un cancer. Il y a des gens qui peuvent pas garder, il y a des gens qui vont pas avoir cette énergie pour en plus de ça être positive. Donc du coup, je trouve que de donner des, de dire c'est 50%, 20%, oui, mais ces gens qui arrivent pas. Enfin voilà, pour moi, pour mon parcours, pour ce qui me concerne, je dirais que ça a permis que j'aille mieux. Oui. Mais de fait, c'est quand même, enfin, à partir, ce sont des gars qui font des années d'études pour être oncologue. Évidemment que c'est la chimio qui m'a guéri. Mais sauf que moi, j'étais dans un état d'esprit qui fait que j'ai pas eu trop d'effets secondaires. J'ai continué de travailler. J'allais le lendemain de ma chimio, j'allais travailler, donc j'étais dans un bon mood, mais c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Moi je suis célibataire, j'avais pas d'enfant, donc j'avais pas, en plus en rentrant chez moi, à m'occuper de mes enfants, à expliquer à mes enfants que peut-être maman n'avait plus beaucoup à lui. Donc moi j'avais pas la charge mentale qu'une femme mère de famille par exemple peut avoir aussi dans son parcours. Ça, donc c'est, je pense que comme le protocole de soins, chacun vit comme il peut sa maladie avec ce qu'il a et ce qu'il est. Mmh. Et du coup, moi, je pense que j'ai eu cette chance de pouvoir vivre la maladie comme j'avais décidé de la vivre, parce que j'étais le seul, il n'y avait que moi dans cette maladie. Oui.
Je comprends.
Mais quand vous êtes malade, vous avez des enfants en bas âge ou pas en bas âge, un mari, enfin vous voyez, c'est, la maladie, ça devient. Vous parliez de votre ami tout à l'heure.
Elle prend de l'ampleur. En fait, elle ne touche plus que vous, mais elle touche des gens qui vous sont proches. D'ailleurs, je voulais vous demander. J'ai tourné. Alors le hasard a fait que j'ai tourné pendant 3 jours là pour Dans les yeux d'Olivier avec une jeune femme dont le destin était assez extraordinaire, une chanteuse qui avait connu le succès dans les années 2010, un succès fulgurant, et qui avait un peu brûlé la vie par tous les côtés, en fait, et jusqu'à un moment, parce que là, je vois le chanteur là qui a tenté de se suicider, ou je sais pas quoi, on nous a raconté plein de trucs, mais visiblement, ça semble s'expliquer un peu. Il aurait joué avec une arme, il a tenté de se suicider, mais on voit Kenji, là, c'est ça, Kenji Girac, oui. Qui, on voit combien ces artistes ont du mal à gérer la notoriété, le rapport au public, le regard qu'on peut porter sur eux, l'argent, tout un tas de choses. Et cette jeune femme, c'est ce qu'elle a vécu, en fait, jusqu'au moment où, à force de brûler la vie par tous les côtés, est arrivé un cancer du sein, justement, comme vous. Mmh. Et elle m'expliquait que cette épreuve-là, avec ce que vous me disiez tout à l'heure, hein, Magdalene, cet enjeu de perdre la vie, c'est-à-dire là, le mur, une fin en soi, quelque chose où on n'a plus le choix que de se battre pour ça, avait totalement changé sa vision de la vie et l'avait fait repartir comme si c'était opéré un reset total. On repart à zéro, pratiquement, c'est un nouveau départ. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce sentiment-là?
Évidemment, puisque oui, j'ai c'est une deuxième chance, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui se passe avec tous les livres de développement personnel. Ta vie commence à partir du moment où tu prends conscience que tu n'en as qu'une. C'est un peu ça, en fait. C'est au moment où on vous annonce quelque chose de d'inévitable qui est la mort. La mort, c'est voilà, c'est un non-retour. Et quand on vous dit que ce non-retour, il potentiellement, il est très proche, ben ça remet en cause un milliard de choses,
oui.
Et notamment un nouveau départ, c'est-à-dire que le nouveau départ, il n'est pas non plus, c'est pas je me lève le matin et ça y est, je change de vie. C'est très dilué. Parce que la première chose qui arrive en tête quand on nous annonce un cancer, c'est le combat. Moi, j'étais en mode guerrière. Je me suis entourée de personnes, et d'ailleurs, je salue les personnes qui m'ont entourée, mes amis, etc. Je me suis entourée des meilleurs que des gens qui étaient dans un bon mood, qui étaient pas là pour me rendre. Enfin voilà, il y a toujours des gens, par exemple, oui, qui vont me dire ah, t'es au courant,
oui.
T'as vu un tel est mort, oui bon c'est bon, ça va faire la nécrologie de tous les morts du cancer de la semaine. Donc vraiment j'étais très entourée. Et dans un premier temps c'est le combat. On veut guérir, donc on se bat pour vivre justement. Et après vient le changement. C'est plus profond le changement. C'est pas au moment de l'annonce où on switch en fait. C'est toutes les semaines après, les mois après, les années après où on opère, hein, où on voit les choses différemment.
Mmh.
Et du coup on évolue aussi. La vie elle a un meilleur goût.
La vie a un meilleur goût, réellement, ouais.
Mmh. Et oui, ça a une autre saveur, les temps que les mots gentils que vos amis vous envoient, ou les moments simples mais plein de bienveillance, ça vaut tout. Moi, je vais dire ça aujourd'hui, je devrais peut-être pas, mais j'ai eu la chance maintenant. Oui, quand je vous dis que c'est une réflexion qui vient, moi, on m'a licenciée 5 jours avant mon retour.
Oui.
Et ben aujourd'hui, alors je vous cache pas que j'avais les nerfs en vrai.
Oui, oui. Je me doute.
Voilà. Mais avec le recul, c'est un bien. Enfin, c'est un mal pour un bien. Parce que sinon, j'aurais continué à faire des horaires de 8h jusqu'à 20h pour... Voilà. Donc, évidemment que je suis énervée, évidemment que je ne vais pas laisser passer. Mais ceci dit, dans ma vie, c'est aussi une manière de dire, ouais, ben ralentis. Tu as bossé pendant toute ta chimio. 5 jours avant ton retour, c'est merci, mais au revoir. Et ben du coup, là, ça me permet aussi de ne pas retourner dans un engrenage.
Ça vous permet aussi de repartir sur autre chose et que ce coup d'arrêt soit l'occasion de créer de nouvelles horizons et de pouvoir se projeter dans d'autres futurs. Et je trouve que c'est aussi ce que l'épreuve nous amène. L'épreuve nous grandit, elle nous propose d'autres options. Elle nous impose même d'autres options et ça n'est pas plus mal. Merci Magdalène pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On peut vous retrouver sur Instagram en tapant Mag, alors M-A-2-G et puis Y-B-E comme Maybe, mais là ça fait Magby avec 2-G, Magby sur Internet, M-A-2-G-Y-B-E. Il n'y a pas de point entre les deux, hein.
Non, je crois qu'il y a un tiré du 6
Ouais, parce qu'on me l'a souligné, donc il a été avalé. Mais en tout cas, vous la trouverez facilement. Merci mille fois et puis bon vent à vous.
Merci.
Mon cher ami, au revoir.
Oui.
Au revoir.
Bonne nuit à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.